Des îlots de chrétienté ouverts. Amis pèlerins, le dimanche après-midi, la route de Chartres n'est jamais facile. Il y a bien sûr l'aspect physique, déjà une cinquantaine de kilomètres parcourus, les jambes qui s'alourdissent, les pieds douloureux. Mais il y a aussi l'aspect mental. Le départ de Paris hier matin n'est plus qu'un souvenir. L'arrivée à Notre-Dame de Chartres, demain, n'est pas encore une réalité. Nous sommes dans l'entre-deux, loin du bruit des villes et du monde, et c'est tant mieux. Car après avoir vu ce matin quel travail personnel nous pouvions faire sur nous-mêmes pour acquérir la sainteté, et avant de voir demain quel engagement prendre pour rayonner dans la cité, il y a un entre-deux, un intermédiaire à ne pas négliger. Développer des oasis, des îlots de chrétienté, qui seront demain, si Dieu le veut, des pôles rayonnants de l'amour du Christ sur le monde. C'est de cela dont nous allons parler maintenant. Introduction. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel s'affadit, comment lui rendre de la saveur? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Cet évangile bien connu est la suite immédiate des béatitudes. Notre Seigneur, après avoir évoqué davantage notre sainteté personnelle, nous dit maintenant quelle est notre place par rapport au monde et nous commande deux choses. D'une part, de ne pas nous affadir, et d'autre part, d'illuminer le monde. C'est pourquoi nous verrons dans un premier temps comment protéger la vie divine en nous, puis comment la porter au monde. Mais auparavant, quelques rappels. L'homme est un être créé pour vivre en société, dont il est forcément influencé par la société dans laquelle il vit. Or, nous vivons dans une société qui a oublié Dieu et le rejette. Et pourtant, notre mission centrale est celle du salut des âmes, la nôtre bien sûr, mais aussi celle des autres. Le chrétien est par essence missionnaire. Comment accomplir au mieux cette mission? Notre vieille Europe est déchristianisée, le clergé se raréfie, donc c'est de plus en plus à nous, laïcs, de choisir nos moyens de sanctification, de poser des choix forts pour conserver ce trésor et œuvrer au règne du Christ. Protéger la vie divine en nous. Nous sommes le sel et le premier devoir du sel est de rester salé. Nous sommes la lumière du monde. Et pour briller, il faut protéger la flamme allumée par la grâce divine en nous le jour de notre baptême. Il faut l'entourer de soins et la garder de ce qui pourrait l'éteindre, et cela spécialement lorsque l'on est jeune et que cette flamme de la foi est en train de se former. Depuis le début de notre pèlerinage, nous disons que la chrétienté est essentielle pour créer, autour de l'âme, un climat favorable à la sainteté pour soutenir son chemin vers le ciel, sans idéaliser la chrétienté qui n'est pas un paradis sur terre. Et comme ce climat favorable n'existe plus, alors il est naturel et même il est essentiel d'essayer de recréer cet esprit de chrétienté d'abord à des niveaux plus petits, dans des sphères plus réduites. Il nous faut bâtir des citadelles, des lieux sûrs où le démon et le monde auront le moins de prise possible. Écoutons Benoît XVI, car c'est pour lui une idée très chère. Nous avons besoin d'îles où la foi en Dieu et la simplicité interne du christianisme vivent et rayonnent, d'oasis, d'arches de Noé dans lesquelles l'homme peut toujours venir se réfugier. Les espaces de protection sont les espaces de la liturgie. Reste que même dans les différents mouvements et communautés, dans les paroisses, dans les célébrations des sacrements, dans les exercices de piété, dans les pèlerinages, etc., l'Église cherche à offrir des forces de résistance, puis à développer des zones de protection dans lesquelles la beauté du monde, la beauté de l'existence possible, devient de nouveau visible en contraste avec tout ce qui est abîmé autour de nous. Quelles sont ces oasis ? D'abord, la famille, l'école et la paroisse. Il s'agit d'en faire des sanctuaires acquis entièrement au royaume de Dieu, des lieux où vraiment le Christ règne déjà, où la primauté du spirituel sur le temporel est respectée par tous. La famille, cellule de base de la société, sanctuaire des vertus domestiques, la famille est l'image la plus parfaite sur terre de la Sainte Trinité. Elle est le lieu par excellence qui doit être protégé du mal parce qu'elle est là où naissent et grandissent les âmes. Ainsi, une famille catholique veillera à ce que son foyer soit un lieu où Dieu est présent et honoré. Quelques idées concrètes. L'importance de la sanctification du dimanche et aussi de la prière familiale dans laquelle les enfants voient leurs parents prier. C'est la plus grande preuve, pour eux, de l'existence de Dieu. Faire l'intronisation du Sacré-Cœur dans votre foyer, voir la méditation de demain. Veiller à la moralité des loisirs. Mener une réflexion exigeante sur l'usage d'Internet et des écrans et décider de mener une vie à contre-courant du torrent de boue dans lequel le monde entraîne la jeunesse. Chers parents, vous ne pouvez rester aveugle ou naïf sur les ravages de la pornographie, mais aussi du harcèlement, des dangers d'addiction, des réseaux sociaux. Donnez à votre enfant un accès à Internet sans aucun filtre, sans surveillance. C'est lui donner du poison à boire, voire dans le livret des pèlerins, la question des filtres Internet. La paroisse. Si autrefois on allait naturellement à la paroisse la plus proche, la crise que traverse aujourd'hui le monde et l'Église nécessite de faire des choix. Par exemple, on ne peut pas déconnecter nos choix professionnels ou personnels, changement de travail, choix d'une ville pour les études, achat d'une maison, de nos besoins spirituels vitaux que sont la paroisse ou l'école. L'on doit apprendre à faire des renoncements pour le salut de nos âmes et celui de nos enfants. Faites le choix d'une paroisse qui soit en homogénéité avec l'éducation donnée à la maison et qui offre une vie sacramentelle riche et fréquente, une formation régulière et de qualité pour les adultes, un catéchisme solide, de bons amis qui nous pousseront à avancer ensemble vers le ciel. L'école, toujours dans l'optique du salut de l'âme, les parents doivent réfléchir scrupuleusement avant de choisir l'école de leurs enfants. En effet, quel parent arrêterait de nourrir son enfant ? Eh bien, la nourriture de l'intelligence et du cœur, avec une scolarité authentiquement catholique, est aussi importante que la nourriture terrestre. Depuis une quarantaine d'années, pour protéger la foi et l'intelligence de leurs enfants, des familles de plus en plus nombreuses font le choix du hors contrat catholique. Le succès de ces écoles, le bienfait aux enfants, saute aux yeux. Par elles, L'héritage de la chrétienté se transmet sur plusieurs générations, car la transmission a plus de chances de réussir dans un cadre authentiquement chrétien. Dans votre discernement, chers parents, écoutez l'avertissement que Pie XI donnait il y a 100 ans sur les écoles, spécialement à l'âge où la foi est en construction et où le jeune est particulièrement exposé aux mauvaises influences. Il est indispensable que non seulement à certaines heures la religion soit enseignée aux jeunes gens, mais que tout le reste de la formation soit imprégné de piété chrétienne. Sans cela, si ce souffle sacré ne pénètre pas
et ne réchauffe pas l'esprit des maîtres et des disciples,
la science, quelle qu'elle soit, sera de bien peu de profit. La fréquentation des écoles non catholiques, ou neutres ou mixtes, à savoir celles qui s'ouvrent indifféremment aux catholiques et non catholiques sans distinction, doit être interdite aux enfants catholiques. Et si Pie XI était si strict, il y a presque 100 ans, que dirait-il aujourd'hui? Chers parents, fiancés ou jeunes appelés au mariage, ne balayez pas trop vite en souriant cette question cruciale dans vos choix professionnels, vos déménagements ou la gestion de vos économies, car vous avez ou aurez charge d'âme devant Dieu. Sachez par ailleurs que de nombreuses aides existent en cas de difficultés financières. C'est une question de survie morale et intellectuelle. Oui, conserver la foi, c'est accepter d'être différent du monde. C'est accepter de s'en éloigner pour en fuir certains aspects ou certains lieux. C'est le thème que Jean-Paul II a développé avec les structures de péché. Sauf vocation exceptionnelle, il faut aujourd'hui appliquer à certaines personnes morales, société humaine, ce que Don Bosco recommandait à ses jeunes devant certaines personnes physiques, les mauvais compagnons. « Fuis si tu veux sortir victorieux, disait-il, en citant saint Augustin, au risque de la dissidence et de l'opprobre. Être dans le monde sans être du monde. Chers pèlerins, il faut ici préciser 2 choses importantes. D'abord, n'attendez pas de ces micro-sociétés ce qu'elles ne peuvent donner, un paradis tranquille et parfait. Tout ne sera pas parfait, loin de là, car dès qu'il y a des hommes ici-bas sur cette terre, il y a le péché et l'imperfection, tant que nous sommes sur cette terre. N'idéalisez pas la chrétienté, vous en seriez profondément déçus. Le deuxième point est lié. Ce n'est pas pour vivre tranquille, coupé du monde, en sécurité absolue que nous montons ces oasis spirituelles, mais bien pour former les apôtres de demain. Les missionnaires le savent. Il faut des centres où se former pour acquérir le savoir et la force d'âme avant de partir évangéliser. Et vous n'aurez pas à partir bien loin. Les terres à convertir sont au pas de votre porte, devant votre domicile. Ces fortins ne sont donc les lieux d'où la mission peut partir, car si en effet le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, ce royaume est bien sur ce monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On ne forme pas des chrétiens pour les laisser bien au chaud sur l'étagère. À nous donc ensuite de quitter nos fortins afin d'annoncer le royaume de Dieu. Nous en sommes les héros missionnés pour conquérir au Christ de nouveaux sujets appelés à transmettre la lumière divine qui nous a été donnée. Ainsi, ces îlots de chrétienté, enracinés à contre-courant, ne sont pas des replis fileux sur nous-mêmes. Au contraire,
Ils sont le cœur battant de la mission. Il ne s'agit donc pas de déserter le monde, de ne chercher que des patrons catholiques, de vivre exclusivement entre chrétiens, etc. Bien au contraire, il y a un temps pour se protéger et un temps pour accomplir sa mission sur terre, comme l'oisillon qui reste dans son nid douillet, puis une fois fortifié par la nourriture que lui ont donnée ses parents, prend son envol. À l'inverse, se retirer totalement du monde, promouvoir des communautés exclusivement catholiques qui se désintéressent de leurs frères et du bien de la cité temporelle, c'est prendre le risque de commettre un péché d'orgueil, d'avoir le zèle amer, de manquer de charité. En effet, il n'y a que les moines qui vivent coupés du monde. Ils ont un rôle particulier à jouer, une vocation particulière que n'ont pas les laïcs. Nous sommes des êtres sociaux, appelés à vivre en société, à apporter au monde le fruit de nos talents et des grâces reçues. L'exemple des premiers chrétiens est éclairant. Ils vivaient en communauté, mais pas en autarcie. Il n'y avait pas d'économie parallèle, ni de soustraction aux devoirs civiques. On sait que les uns étaient soldats, les autres paysans, etc. Et ils ont rayonné par la force d'attraction du bien. Vivre en communauté, c'est se soutenir, se réunir, s'aimer d'un amour de charité, donc de prédilection, mais pas vivre séparé du monde. Des oasis plus vastes. Nous avons parlé de la famille, de l'école, de la paroisse, mais il faut voir plus grand. Les amitiés chrétiennes dépassent ces cadres, et c'est à vous, chers pèlerins, d'être inventifs pour commencer à tisser ce lien social chrétien qui sera le début d'une nouvelle chrétienté. Écoutez à nouveau Benoît XVI. Étant donné qu'il existe une culture hédoniste qui veut nous empêcher de vivre selon le dessein du Créateur, nous devons avoir le courage de créer des îlots, des oasis, puis de grands terrains de culture catholique dans lesquels vivre les desseins du Créateur. Quelques idées concrètes. La grande famille du scoutisme, par exemple, les camps de formation de jeunes qui fondent des amitiés solides pour la vie. Saint-Lazare, Missio, Sainte-Madeleine, par exemple. Les universités d'été. Développer le tissu associatif, il y a la possibilité de monter des milliers de projets et même de reprendre ou de réorienter des associations existantes dans la bonne direction. AFC, AMAP, Association pour la sauvegarde du patrimoine, Association de culture populaire, etc. Cultiver le réseau. Les réseaux professionnels ou d'acteurs engagés sont importants pour se connaître et mettre en place des synergies. Ne pas s'isoler. On peut penser aussi aux retraites, aux groupes d'amitié entre familles comme les Domus Christiani ou les groupes Cana, et à toutes ces activités éducatives, culturelles, civiques que développent à contre-courant des catholiques comme refuge attractif, générateur de témoins et missionnaire. Et s'il n'y a rien près de chez vous, un seul conseil, créez-le, soyez inventif. Voyez-vous, on n'est pas chrétien tout seul. Il est nécessaire, régulièrement, d'aller boire à la source vive, de nous replonger dans une atmosphère authentiquement chrétienne, afin de reprendre des forces dans des amitiés vraiment chrétiennes pour le combat spirituel qui est le nôtre dans un monde athée. Combien parmi nous attendent ces 3 jours de marche vers Chartres? Justement parce que ce sont 3 jours de ressourcement qui vont irradier ensuite leur vie familiale, leur paroisse, leur travail. Conclusion. Vers le politique.
Si vous avez bien compris l'esprit de ces oasis de chrétienté, alors vous verrez naturellement que cela ne s'oppose aucunement à un engagement du chrétien au service de la cité temporelle, au service du politique au sens noble du mot. Un catholique ne peut se désintéresser du politique, des lois, des combats culturels ou moraux pour assainir la société. Ne chantons-nous pas la présentation de Jésus au Temple, le 2 février, Lumen ad revelationem gentium? Le Christ est la lumière qui doit éclairer non seulement les chrétiens, non seulement les associations de chrétiens, mais les nations. C'est la nation tout entière, avec ses chefs, ses institutions, son gouvernement, sa politique, son école, sa culture. C'est tout cela qu'il faut conduire dans le royaume du Christ. Alors s'accomplira la parole de l'Évangile. Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est dans les cieux. C'est ce que nous verrons demain.